Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon norme WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC. RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
22h46, Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là. On me signale sur le hashtag RMC Live que tu oublies un Francis, Daniel. Allez, il se trouve dans le sud de la France, à côté de Marseille. Turcan.
Francis Turcan.
Martigues. Exactement.
Bah, ça conforte mon idée que le Francis est le stade le
et peut-être même que dans d'autres stades moins connus, c'est vrai qu'il faudrait voir si on peut nous donner des noms de stades avec des Francis comme prénom. Peut-être que c'est
Francis
raison.
Francis Nantes, un Gaston Gérard, un Gabriel Montpied.
Enfin, Geoffroy... Le prénom de l'abbé des Champs, c'était Francis, va savoir.
Geoffroy Guichard.
Un Geoffroy, ouais.
Geoffroy Guichard.
Parce qu'il y a des stades qui n'ont pas de nom.
Oui, tout à fait.
Genre Vélodrome, c'est pas un nom. Ah, Parc des Princes, pas un nom.
Giuseppe Meazza.
Oui, non, mais en France.
Ah, si, c'est des noms quand même. Parc des Princes, c'est un nom.
Oui, non, mais c'est pas un nom, le nom d'une personne. Okay. Chez toi, la Méno, c'est un quartier, c'est pas le nom de quelqu'un.
Exactement.
Voilà. Donc, il y a autant de stades avec des noms de quartier ou de vin que.
J'avais proposé qu'on le rebaptise stade Ali Bouafia,
mais. Parc des Princes. Le Parc des Princes était un lieu dit, tu le sais. C'était une forêt, c'est là où les petits princes allaient jouer, en bordure du Bois de Boulogne. Le fils du roi allait jouer dans ce coin-là. C'est pour ça qu'on a appelé le Parc des Princes.
Voilà. Nico Villas, toujours là. Nico, tu nous as parlé du Sporting.
Il est encore là, lui.
Bah oui, c'est des heures sup. dis-nous tout maintenant de Benfica et de son début de saison. Plutôt bon, enfin même très bon, à part ce week-end.
Ouais, alors c'était même historique, puisque Roger Schmidt, l'entraîneur allemand qui arrivait l'été dernier, était à 13 victoires en 13 matchs. Alors le record, c'était... est détenu par Sven-Goran Eriksson dans les années 80. Il avait fait finale côte de Coupe d'Europe, notamment à l'époque aussi. Il s'était vraiment révélé. Il avait explosé avec le Benfica.
Ah, c'était une grande époque de Benfica, en plus. Avec
ouais, alors c'est l'une des grandes époques. Années 80, ils font plusieurs finales de Coupe d'Europe. Alors, il y a la fameuse malédiction de Gutmann qui fait que, il y a plus de victoires en finale, mais ils ont un record avec la Juve de finales perdues en Coupe d'Europe. Et là, ce week-end, c'est vrai que c'est le premier coup d'arrêt, 0-0 à Guimarães face au Vitória, avec des joueurs qui pourtant font un début de saison hyper intéressant. Je pense à Enzo Fernandez, à Rafa qui vient de prendre sa retraite internationale, João Mario qui revit, David Neres, et sont un petit peu passés à côté du match. Alors certains expliquent ça parce qu'il y a eu la trêve internationale et que des joueurs comme Enzo Fernandez qui a eu sa première sélection avec l'Argentine sont peut-être un peu fatigués, mais c'est vrai qu'il y avait des mecs qui étaient franchement en dedans par rapport à ce qu'on a vu. Et à la fin du match, Roger Schmidt a même dit, on a fait match nul et franchement c'est un bon point parce qu'on aurait pu pas perdre la rencontre. Il y a une action en fin de rencontre hyper confuse dans la surface de réparation du Benfica où les joueurs de Guimarães ont réclamé un pénalty où franchement l'action est très très litigieuse. Donc c'est vrai que le Benfica s'en est bien sorti ce week-end en faisant un petit peu tourner. Il y a toujours des ajustements ponctuels qui sont faits par Roger Schmidt, mais il y a pas une profondeur de banc extraordinaire. C'est-à-dire que les choix de Schmidt, on les connaît déjà très très largement à l'avance, peut-être à un ou deux joueurs près à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui est très joueuse. Je regardais une stat que le CIES, l'Observatoire du foot, a sorti aujourd'hui. Dans tous les championnats du monde, tout continent confondu, il y a City qui est l'équipe qui fait le plus de passes. En deux, il y a je sais plus qui. En 3, il y a le Benfica et en 4, il y a le PSG. Voilà, ça vous donne une idée un peu du style de jeu des deux équipes et de ce qu'on pourrait peut-être voir sur le terrain aussi.
Bon. Tiki-taka.
Non, mais c'est, alors, ce qui nous vaut l'avis de Daniel du soir concernant ce match, Jingle Riolo.
C'est bon, 27%, on a compris. Arrêtez, vous croyez que je suis teubé ou quoi?
On est dans les maths ce soir.
Attention, tu parles sous le contrôle de Nico Villas,
effectivement. Nico Villas nous parle du Benfica de cette saison. Et il faut le dire, c'est un Benfica qui reste déjà sur une campagne très intéressante en Ligue des Champions l'année dernière. Une équipe qui, de toute façon, n'est jamais ridicule. C'est la base.
En Ligue des Champions, c'est arrivé assez souvent, assez récemment, mais...
L'année dernière, on est d'accord qu'il reste sur.
Ouais, mais avant, il s'était fait sortir à chaque fois en phase de poule. L'année dernière, c'est l'année qui a décomplexé le Benfica en Ligue des Champions sur les dernières saisons. Mais avant ça, il y a eu des campagnes désastreuses aussi.
Bon,
Ça bon, j'ai pas envie de vous dire ton avis tout de suite. Hein,
mais... Non, mais ça vous dit, ça vous dit en rien mon avis, puisque de toute façon, ce que je voulais dire, c'est que c'est une équipe qui n'est jamais ridicule, quoi qu'il en soit. Elle peut être faible, mais pas ridicule. Et surtout, j'allais dire, quand elle joue à domicile, je crois pas, pour ceux que ça intéresse, les stades de ce genre-là, que les équipes françaises aient l'habitude de briller là-bas. C'est une équipe qui est dans un club qui est dans une bonne phase, bonne campagne de Ligue des Champions l'année dernière. Ils démarrent bien cette année et sont, au moment du tirage au sort, certains bêtement ont peut-être pensé que Paris et Juve étaient les deux favoris. Je pense que Benfica est le deuxième candidat à la qualification et que c'est plutôt à Juve et qui va devoir s'arracher jusqu'à la fin. Et tout ça me conduit à penser qu'en fait, pour le PSG, c'est le premier test de la saison. Je pense qu'ils n'ont pas rencontré depuis le début de la saison une équipe aussi forte que Benfica. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas passer. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire quelque chose que les clubs français ne font pas, c'est-à-dire aller gagner à Lisbonne. C'est fort possible. Néanmoins, puisqu'il s'agit d'un nouveau PSG dont on a beaucoup parlé, qu'on a présenté comme limite révolutionnaire, avec nouveau coach, nouvelle approche, le premier test, c'est pour mercredi soir. Moi, cette théorie de la révolution, du nouveau système, du nouveau tout ce que vous voulez, je n'y ai jamais cru. Pour citer un auteur trop méconnu qui s'appelle Nicolas Jamin, les gens ne sont pas exigeants, ils ont de la chance. Et les supporters du PSG ont arrêté l'exigence depuis très longtemps maintenant, et ils ont de la chance parce qu'ils considèrent que le PSG joue bien depuis le début de la saison, en tout cas certains, beaucoup, majoritairement, puisque Neymar joue sur une autre planète, que Messi va redevenir le meilleur joueur du monde, que Sergio Ramos est fantastique dans cette défense à 3, que Verratti est irremplaçable et que donc tout va bien dans le meilleur des mondes au PSG. On verra mercredi déjà ce que ça va donner ce match. Sur les dernières semaines, je trouve que le PSG ne produit pas de belles prestations. En termes de jeu, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est rien, en tout cas rien de différent par rapport à l'année dernière. Les 2-3 premiers matchs, l'enthousiasme des 2-3 premiers matchs, notamment celui de Lille qui était surgonflé au possible, a donné l'impression qu'il y avait quelque chose de différent. Les 6 premiers mois de Tuchel, par exemple, en termes de jeu, avaient donné des choses bien plus intéressantes. Là, il n'y a rien, il n'y a pas d'approche tactique de la part de Galtier, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de choix fort dans ce que l'équipe produit ou ne produit pas. Elle a encore gagné samedi parce que Messi a marqué un beaucoup franc, que Mbappé est rentré en jeu et que c'est un joueur hors norme. Bref, c'est toujours la même histoire. Nous parlons d'individualité. Le milieu de terrain n'a pas été restructuré puisque de toute façon, tout continue de tourner autour de Verratti. Ceux qui sont arrivés savent qu'ils ne seront jamais titulaires, rentrent, vont faire des petits bouts de match, ne s'installeront jamais. Je dois faire une parenthèse. J'ai eu beau le défendre toute ma vie, je trouve qu'il est formidable, mais là, non, c'est plus possible. On peut pas se blesser autant. Renato Sanchez, c'est pas possible. Il est trop blessé. Je pense
qu'il décide
corps,
demain matin à Paris.
Je pense que son corps présente un problème qui le rend inapte au football de haut niveau. Mais au bout d'un moment, c'est fatigant. J'ai eu une indulgence énorme envers ce joueur. Il reviendra peut-être au mois de mars, j'en sais rien. Il sera peut-être formidable quand il jouera parce qu'il a des capacités que j'aime beaucoup. Mais moi, ça commence à me fatiguer. Les bons joueurs, c'est ceux qui jouent et c'est ceux qui sont pas blessés. Donc là, il me fatigue. Parenthèse refermée. Je termine donc sur ce manque d'exigence. J'espère que le Paris Saint-Germain ne se rendra pas compte mercredi soir que, encore une fois, on l'a vu trop, trop beau. Ça n'est que Benfica, mais c'est Benfica quand même. J'ai jamais eu de mépris pour le football portugais, bien au contraire. Je pense qu'il est supérieur au nôtre. Et je ne me risquerai pas à parier la mallette à Rocco sur une victoire du PSG au Stadio da Luz, parce que vraiment, cette équipe, elle va proposer une opposition au PSG qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir, c'est-à-dire un fort pressing, une verticalisation assez rapide. Ils n'ont pas l'habitude, les Parisiens, de jouer contre ce genre de formation, surtout pas en Ligue 1. C'est leur vrai premier gros test et je suis très, très impatient de voir ça.
Juste avant que Flo donne son avis à lui aussi, sachez que Verratti s'est entraîné normalement aujourd'hui et il a plus mal au mollet, il devrait donc jouer mercredi. Voilà. Flo, d'accord avec Daniel ou pas ?
Oui et non, parce que le PSG nous a habitués aussi dans ses phases de poule de Ligue des Champions, dans les phases de poule récentes, à assez bien gérer des gros matchs, voire des très gros matchs, des affiches entre guillemets, hein, en poule, en groupe, et à ne pas après reproduire ces prestations-là en mars, parce que justement c'est les autres équipes qui étaient montées en puissance et elles qui n'y étaient pas. Donc le PSG est quand même tu as raison, tactiquement et en termes de jeu, c'est pas exceptionnel. C'est souvent effectivement lié à leurs individualités, mais c'est quand même un PSG qui a des certitudes, qui arrive avec de la confiance et avec parfois plus de certitudes que ce que tu as pu avoir, enfin plus de certitudes que ce que tu as eu avec Pochettino, par exemple. Moi, je trouve.
En phase de poule,
tu me parles de Tourelle, je suis assez d'accord.
En phase de poule.
Ouais, moi je trouve
que il y a quoi de différence avec l'année dernière? L'année dernière, quand tu bats City, on en était limite au sacrifice humain autour du Parc des Princes.
Ouais, mais c'était
la grande folie. L'équipe jouait le feu de Dieu, c'était magnifique. Tout le monde a oublié que la deuxième mi-temps, t'as défendu le cul par terre.
Ouais, mais en
même
Ligue 1,
contre Nice, parfois, t'as défendu le cul par terre.
En Ligue 1, je trouve que effectivement, là, en ayant fait tourner, tu as rappelé que Mbappé, s'il a été difficile, c'est qu'il est rentré en jeu, il était sur le banc. Oui, c'est normal que quand tu as ton meilleur joueur, enfin, sur le banc, ton meilleur attaquant, il n'est pas là, donc il fait la différence quand il entre. Mais s'il est là pour faire la différence sur un coup de pied arrêté, c'est aussi le lot de même pour Paris. Donc, je pense que en poule, ils nous ont souvent habitués à quand même à se mettre à ce niveau-là. Donc, oui, c'est un test, c'est évident, t'as raison.
Mais attention, en poule, ils passent toujours tranquille. Ouais, mais en poule,
c'est pour ça que je te dis, ça préjugera pas grand-chose.
Regarde leurs résultats en poule à l'extérieur. Et tu vas voir que c'est nettement moins brillant.
Peut-être.
En
peut-être.
Poule à l'extérieur.
Peut-être, ouais.
Même sur des matchs comme Naples, Liverpool, Bayern. Souvent, ils perdent.
Non, mais je trouve que ton analyse à laquelle je peux souscrire, elle vaut plus, moi, pour moi, pour la suite. Je suis plus inquiet en me projetant, pour me dire qu'est-ce que cette équipe va être capable de faire.
Oh là, moi, je me projette pas si loin.
Moi, là, pour l'instant, je dirais que le PSG,
moi, je veux déjà voir. Je veux voir contre Benfica ce que ça va donner. Parce que Benfica, moi, mon avis, c'était Benfica. Le PSG, depuis le début de la saison, n'a pas rencontré un adversaire aussi fort que Benfica.
Donc, en Ligue des Champions, que tu rencontres.
Non, pas logique. Si logique que ça.
Non, mais c'est en Ligue des Champions que tu risques de rencontrer
je suis impatient de voir ça, curieux de voir ça. Si le PSG fait un gros match et va gagner là-bas sans problème, ce sera pour moi.
Ça changera pas grand-chose.
Non, mais ce sera pour moi quand même un point très positif.
Ouais.
J'en ferai pas un favori à la victoire finale, mais ce sera positif. Ce sera positif parce que c'est vraiment cette équipe, elle me plaît beaucoup.
Bon, Benfica à domicile contre le club français, Nico, c'est il gagne.
Ouais, mais parfois en mettant début de la main.
Ok. Un club français n'a jamais gagné à Benfica, si je dis pas de bêtises.
C'est pas autorisé. Hein.
Ouais, le problème avec ces statistiques là, c'est que non, il y a jamais eu de défaite pour le Benfica à domicile en 15 matchs toute Coupe d'Europe confondue, effectivement. Après, le problème, c'est que c'est pas le même Paris Saint-Germain, par exemple, que le Benfica a affronté il y a quelques années. C'est-à-dire que Daniel a raison quand il dit peut-être probablement le Paris Saint-Germain a pas affronté une équipe qui joue comme le Benfica cette saison, mais le Benfica, qui est sur un quasi sans faute depuis le début de saison, ils ont pas non plus rencontré une équipe encore du niveau du PSG. Et surtout, la vision qu'on a du Paris Saint-Germain. Bien sûr. Mais la vision, après, c'est un test, c'est pas le même rapport de force. C'est-à-dire que la vision du PSG, comme dans beaucoup d'autres pays, hein, d'abord, on a décrit ce club-là comme un club de nouveaux riches qui fait venir des stars à travers Mbappé, Neymar, bien sûr, il y a quelques années. Et puis aujourd'hui, c'est devenu, parce qu'au Portugal, on voit beaucoup les choses à travers le prisme des Portugais. C'est-à-dire qu'on vit beaucoup le football par procuration. Le foot portugais, contrairement. Aujourd'hui, il y a un truc, puisqu'on est dans la soirée franco-portugaise, il y a une question qui a été posée à Ruben Amorim, parce que l'un des gros enjeux de cette semaine, c'est le ranking UEFA, oubliez pas ça. Et au Portugal, ils sont obsédés par ça comme en France, puisqu'avec la nouvelle réforme de la Ligue des Champions, la cinquième place, elle va être hyper, hyper importante. Et il y a un journaliste français qui a demandé à Ruben Amorim tout à l'heure, lui a dit, est-ce que vous, au Portugal, vous êtes obsédés par ça comme nous, en France, on l'est vis-à-vis du ranking UEFA? Et Amorim a dit, oui, bien sûr que nous, au Portugal, on pense au ranking, mais pas de la même façon qu'en France. C'est-à-dire que pour nous, on veut d'autres places en Coupe d'Europe parce qu'on a besoin de l'Europe pour gagner de l'argent. C'est-à-dire, nous, on n'a pas les moyens des clubs français. Tout à l'heure, l'auditeur le disait. Alors, le budget du Sporting, il a quasiment doublé parce que il y a une opération boursière qui a été effectuée avec des achats d'actions. Le capital social, il est à 150 millions d'euros. Mais il y a trois semaines, il était à 80 millions d'euros. Le budget du Sporting, qui était champion à deux ans, c'est 80 millions d'euros. Ça veut dire que quand tu te qualifies pour la phase de poule, tu prends 50% de budget en plus, rien qu'avec une qualif. Le PSG demain, qui gagne le match ou pas, les 5 millions de dotation pour eux, ça change rien. Mais pour le Sporting, pour le Benfica, ça change énormément de choses. Il y a aussi autre chose, on a souvent parlé de ça. pourquoi les clubs français vendent très bien? Alors au-delà de la Jorge Mendes connection, du savoir-faire en termes d'agencement de joueurs, etc.
Pourquoi les clubs portugais vendent très bien? T'as dit les clubs français.
Les clubs portugais, pardon. Ouais. C'est parce que ils ont conscience que la plus belle des vitrines pour valoriser un joueur, c'est les coupes d'Europe. J'allais dire la Coupe d'Europe. C'est les coupes d'Europe. Conférence League, bon, ils y sont plus cette année, mais Europa League, etc. La meilleure façon de valoriser les produits, c'est ça. C'est-à-dire que la grande différence qu'il y a très souvent, tu vois, je relisais les déclarations de Longoria. Longoria, quand tu lui demandes c'est quoi l'objectif de l'OM en Ligue des Champions, c'est de se qualifier. C'est ce que disait Flo tout à l'heure d'ailleurs. Ok, mais et c'est quoi le projet une fois que tu y es ? Ah bah, Flo le disait tout à l'heure, c'est de se requalifier la saison d'après. Mais au Portugal, les gars, quand ils y sont, ils veulent gagner. Parce que, comme l'a dit Amorim tout à l'heure, tu es un grand club, tu te dois de faire honneur à ton statut, mais parce que quand tu gagnes, tu prends les dotations et que tu es hyper dépendant de ça également. Et ça, c'est la grosse différence. Et c'est l'une des explications qu'il peut y avoir au niveau de la différence des résultats européens entre les clubs français. Alors, j'allais dire les clubs portugais, c'est pas les clubs portugais, c'est le trio portugais. Parce que quand on parle de Coupe d'Europe et de clubs portugais, mis à part Braga qui a eu quelques bonnes performances européennes, notamment en Europa League, le foot portugais se résume à trois clubs. Hein, faut pas oublier ça aussi. Hein. C'est une réalité qui est totalement différente aussi du foot français.
Moi, les petits parcours de Braga en Coupe de l'UEFA.
Oui, c'est ce que je te dis.
Braga l'année dernière, Braga a sorti Monaco. Hein.
Ouais. C'est ce que je vous dis. Braga commence à sortir, mais vous savez qu'au Portugal, il commence à y avoir limite un militantisme médiatique pour que Braga devienne champion. C'est-à-dire que le président a même fait une proposition de réforme d'une réforme des championnats, du championnat et des compétitions internes, pour que les autres clubs puissent exister également. C'est-à-dire que faut pas oublier que la réalité du football portugais, c'est pas Benfica Porto Sporting, c'est l'Académica qui est en Détroit, qui est dernière aujourd'hui, qui est le doyen des clubs portugais, et c'est tous les autres clubs qui crèvent la gueule ouverte. C'est pour ça que des fois, quand je vous dis, je dépeins le football portugais comme négatif, c'est pas négatif, c'est que pour moi, le football peut pas se résumer à trois clubs. C'est pas possible.
Merci Nico.
Merci à vous, les gars.
Tu seras là demain et après-demain, hein, bien sûr. Pour la semaine franco-portugaise, c'est un peu ta semaine. Dans un instant, on parle cette fois Ligue 1 et Florent Gautreau va nous annoncer la valse des coachs à venir. Oui, parce qu'il est comme ça, Florent. C'est tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.